s'arrête pour t'écouter, toi. On ne dit pas que Bartimée était un grand saint. Hein. On ne sait pas si c'était à la synagogue ou pas. En tout cas, c'était un aveugle qui faisait la mendicité pour survivre. C'était un pauvre gars, un SDF. Et quand Jésus le fait appeler, il se lève d'un bond, il laisse tomber son manteau de mendiant et il s'approche de Jésus. Et Jésus lui dit, mais qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Et lui, il répond, comme une balle de revolver qui sort de son canon, il dit, je veux recouvrir la vue. Il avait une telle attente. Il avait tellement misé sur Jésus qu'il a osé faire une prière insensée. Je veux voir aujourd'hui, maintenant. Et vous savez quoi? Jésus a répondu à son attente. Mon fils, ta foi t'a guéri. Je te pose maintenant une question d'aller plus loin. Tu attends quoi de ce culte? Tu attends quoi du temps de prière? Tu attends quoi? Comment es-tu venu intérieurement disposé? Quelle est ton attente? Parce que vous voyez, mon premier point est très simple. Dieu répond à la mesure de mon attente. En anglais, ils disent « You get what you expect ». Tu obtiens ce que tu attends. Si tu attends très peu, tu auras très peu. Si tu attends beaucoup, tu auras beaucoup. Si tu attends rien du tout, tu auras rien du tout. Tu auras un joli petit culte. Tu auras fait ton culte du dimanche. Et tu rentreras à la maison, sans doute satisfait, mais il y a tellement plus. Tellement plus. Tellement plus. Toujours à Capernaum, on lit dans Marc chapitre 5, les versets 21 et suivants, l'histoire d'un Jairus. Jairus était le chef de la synagogue, donc un statut assez élevé, reconnu dans la ville. Quand on parlait de Jairus, c'était pas n'importe qui, il avait du pouvoir. Surtout qu'à l'époque, souvent, pouvoir civil et pouvoir religieux étaient mélangés, étaient coïncidés. Et Jairus a un enfant de 12 ans qui est très malade. Et il s'approche au verset 21. Jésus arrive avec la barque auprès du bord de la mer. Et verset 22, un des chefs de la synagogue nommé Jairus, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Cette prière désespérée. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, viens maître, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Et Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait. Maintenant, au moment où il part vers cette maison, la foule le suit, il se passe quelque chose dans la foule. Écoutez, voir ce qui est marqué. Verset 25, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'éprouvait aucun soulagement, mais était allée de mal en pis. Ayant entendu parler de Jésus, elle a eu l'information comme quoi Jésus était capable de renverser la vapeur dans les vies. Donc elle avait tout dépensé, elle était désespérée. Elle vint dans la foule, alors que c'est une femme qui est atteinte d'une perte de sang. Elle n'avait pas lieu de mélanger à la foule, parce que tout ce qu'elle touchait devenait impur. Du tabouret qu'elle touchait à la maison, aux vêtements qu'elle touchait chez quelqu'un qu'elle contactait de manière fortuite. Donc elle devait rester à la maison, mais elle s'est dit, si seulement je pouvais toucher ses vêtements, je serais guérie. Au même moment, au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de tout mal. Waouh ! En un côté, le reste. Jésus, ayant connu aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, dit, mais qui m'a touché mes vêtements ? Qui m'a touché ? Et Pierre de répondre, mais attends, Seigneur. Il y a la foule, plein de gens peuvent te toucher. Comment tu peux dire ça? Il dit non, quelqu'un m'a touché. J'ai senti une force sortir de moi et regarder autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Et évidemment, cette femme, compte tenu du contexte social, qui aurait dû rester à l'écart de la foule, est toute tremblante et elle se jette à ses pieds et il dit, dit toute la vérité au maître. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » On retient ça. Cette femme avait un besoin majeur. Elle était malade depuis de nombreuses années. Elle était ruinée. À l'époque, il n'y avait pas de sécu, il n'y avait pas de caisse de complémentaire maladie, il n'y avait rien de tout ça. Et donc, à un moment donné, elle est au bout de ses moyens, au bout de ses limites. Mais remarquez comment elle s'est approchée de lui. Remarquez peut-être que dans la foule, il y avait d'autres malades aussi qui étaient là, qui auraient pu et qui ont touché Jésus, mais rien ne s'est passé. Mais chez elle, il s'est passé quelque chose parce qu'elle s'attendait à quelque chose. La différence entre la foule et elle, c'est qu'elle s'attendait à ce que quelque chose se passe maintenant. Bon, vous avez l'air très, très calme ce matin. Je ne sais pas si le micro n'est pas assez fort ou... Bien-aimé, on va terminer dans un instant par la prière. Je voudrais que vous puissiez prier, non pas en mettant votre foi sur Benjamin ou sur Claude ou sur Jean-Luc ou sur n'importe quel frère qui vient en prier avec vous, mais votre foi en Jésus. Et que vous approchiez avec une attente. Seigneur, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Et remarquez voir le discours qu'elle avait intérieurement. Si seulement je pouvais toucher le bord de son vêtement. Si seulement. Elle disait pas, allons voir si ça marche. On va essayer. Non, non. Elle avait eu l'information que Jésus avait déjà fait beaucoup de miracles à Capernaum et elle se disait, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi aujourd'hui? C'est peut-être mon jour aujourd'hui. Je m'attends à toi. Seigneur, je m'attends à toi. Et finalement, elle a été guérie. Au moment où cette scène se termine, l'histoire de Jaïrus se continue. Puisque, on rappelle de Jaïrus, hein, c'est la foule qui a suivi Jésus, qui suivait Jaïrus chez lui. Et pendant que cet événement a lieu, eh bien, il est marqué verset 35, des serviteurs de la maison de Jaïrus arrivèrent chez lui pour lui dire, n'importune pas le maître, ton enfant est décédé. J'imagine le cœur de ce père. Il y a 8 semaines exactement, un lundi matin, 9h20, j'étais chez mes parents, je montais l'escalier, quand le médecin en descendant, il me disait, je disais, je suis le fils, il me disait, papa est décédé. Je vous assure, vous n'en menez pas large. Vous êtes là, vous dites maintenant, tout un monde s'arrête. Tout un pan de la vie s'arrête. Des pages se tournent. Et intérieurement, il y a plein d'émotions qui montent. Et tout à coup, il y a le maître qui est là, qui voit le chef de la synagogue et lui dit, ne crains pas. Crois simplement. Ne crains pas. Crois simplement. Et nous lisons le reste. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une grande foule bruyante qui pleurait et qui poussait des grands cris. Il entra et dit, pourquoi faites-vous du bruit? Pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Voilà que tu espères au miracle. Tu en parles autour de toi. Et qu'est-ce qu'on fait avec toi? On se moque de toi. Oui, il est simplet, le Claude. Hein, c'est un simplet, oui, bof. On est au 21e siècle, elle est morte, elle est morte. L'affaire est cuite, l'affaire est pliée, il n'y a plus rien à faire. Vous connaissez ce genre de discours? Mais la première chose que Jésus fait, regardez voir ce qu'il fait. Verset 40, alors ayant fait sortir tout le monde, tout ce monde qui se moquait, tout ce monde qui doutait, tout ce monde qui était pas du tout dans une dynamique de foi, mais d'incrédulité, eh bien, il le fait sortir. Il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Il entra là où était l'enfant, il la saisit par la main et lui dit « Talitha kumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». À l'instant, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Elle avait la vie. Et il fut dans un grand étonnement. Jésus leur adressa une forte recommandation pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Chose naturelle, elle avait faim, donnez-lui à manger. Bien-aimé, voyez-vous, si la foi vient de ce qu'on entend, et la foi de cette femme et de ce Jaïrus est venue d'après ce qu'ils avaient entendu dire à Capernaum et aux alentours. À l'époque, il n'y avait ni WhatsApp, ni Facebook, ni Instagram, mais il y avait le téléphone arabe. Et tout le monde savait tout sur tout le monde. Et tout le monde savait qu'un tel, tu sais, la belle-mère de Pierre, hein, incroyable, elle avait... On pense à la diphtérie. Jésus est arrivé, a touché la main et elle s'est levée. Et après, elle les a servis. Elle avait une très grosse fièvre, mais elle s'est levée et elle l'a servie. Et puis, on a entendu dire qu'ils avaient été de l'autre bord du lac, près du Golan, là, dans le pays des 10 villes, la Décapole, chez les mangeurs de cochons, chez les impurs. Et là, Jésus, au bord du lac, il a rencontré un type complètement fêlé, qui criait la nuit et le jour dans les tombes. On avait essayé de l'accrocher. On se rappelle de lui, on connaît l'histoire depuis des années. Il était comme ça. Mais Jésus est arrivé. Et en un instant, cet homme a retrouvé le bon sens. Tous ses sens, il s'est habillé. Il voulait même le suivre. Ça se racontait autour du lac. Le téléphone arabe marchait très 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 bien. Enfin, le téléphone israélien là peut-être, hein, plutôt que l'arabe. L'information. Et du coup, les gens qui n'avaient peut-être plus d'espoir commençaient à reprendre espoir. Et cette femme, et ce Jaïrus, tout Jaïrus qui fut, tout synagogue qui fut, il s'est humilié, il s'est jeté aux pieds de Jésus. Il n'avait plus rien à faire de son statut social. Peu importe, c'est ma fille qui est en jeu. C'est mon enfant qui est en jeu. C'est sa vie qui est en jeu. Et il se jette à ses pieds et Jésus vient avec lui et la guérit. Et au passage, il a même mis à la porte tous ceux qui pouvaient avoir un autre discours. Si la foi vient de ce qu'on entend, l'incrédulité vient aussi de ce qu'on entend et de ce qu'on se permet d'écouter. Et ce qui est vrai au niveau de l'individu est aussi vrai au niveau d'une population, d'une foule, d'une ville, d'un quartier. Regardez voir, à Capernaum, Marc 1, 32, 34, il est marqué, après avoir guéri plusieurs malades, la belle-mère de Pierre, beaucoup furent guéris. Beaucoup vinrent, il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies, il chassa aussi beaucoup de démons, et ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. On est à Capernaum, à l'époque, c'était le territoire un peu obscur. C'était pas Jérusalem, Jérusalem. La ville sainte, le haut lieu d'Israël, là où Dieu se révélait, le mont Sion. Non, on était à Capernaum, le 9-3. Brossolette, Samulouse. Et Dieu se plaît à Brossolette. Et Dieu se plaît à Nonol 9-3. Parce que Dieu aime tous les gens, tous les hommes, toutes les femmes de ce monde. Et parce qu'il avait de la foi, il a pu faire là beaucoup de miracles. Peu de temps après, Marc 6, il rentre à la maison. Il fait environ 30 bornes, il va de Capernaum à Nazareth. Et là, changement d'ambiance. Il prêche à la synagogue. Verset 2, quand le sabbat fut venu, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés. Il parle bien, le gars. Hein. Ah ouais. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il ne se passe rien à Capernaum, à Nazareth. Très peu de miracles. Et le rédacteur de ce texte, l'apôtre Marc, va donner la raison profonde. Et il dit, qu'il entendait, était étonné, et dit, il disait, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le fils du charpentier? On connaît ses frères, On connaît ses sœurs. Elles sont toutes là. Et puis alors, quand même, Jésus. Bon, quand même, Jésus, hein. La petite Marie, Sainte Nitouche. C'est comme tout juste 6 mois après leur mariage qu'il est né, le petit Jésus. Hein. J'imagine toutes sortes de discours qui ont pu avoir lieu. Et du coup, résultat des courses, versets 4 et 5 et 6. Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle. Si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit, et il s'étonna de leur incrédulité. Excusez-moi, trois jours avant ou deux jours avant, il était à Capernaum, il se faisait des miracles en pagaille. Le même Jésus. Le même Seigneur. Il n'avait pas changé. 8 jours avant, il était de l'autre côté du lac à délivrer un possédé. Le même Jésus. Le même Jésus arrive à Nazareth et il ne se passe rien. Le même Jésus. Dieu répond à nos prières en fonction de notre attente. Qu'est-ce que tu attends de Jésus ? À quoi t'attends-tu ce matin ? Quelle est ta montagne ? Attends, on a démarré par ce cantique. Si tu crois, comme enfin, c'est la fois que mon grain de s'élever, tu pourras dire à la montagne, arrache-toi de là et jette-toi dans la mer. Mais quelle est ta montagne ce matin ? J'aimerais que tu puisses rentrer sans la montagne. Qu'elle se détache et qu'elle aille dans la mer et que tu puisses dire, l'affaire est réglée. Le Seigneur s'en est occupé. Je sais que ça vient, que Dieu va me répondre maintenant et que j'aurai une solution. Notre attente repose sur ce que Dieu dit et non pas sur nos circonstances. On a ce magnifique texte de Romains chapitre 4 verset 17 où Abraham, on parle d'Abraham. Il faut comprendre de quel Abraham on parle. On parle d'Abraham qui avait reçu la promesse à 75 ans et quand ce texte va s'appliquer, il a 99 ans. Et si en Genèse 12, Genèse 15, on peut entendre que Abraham avait reçu la promesse d'une grande descendance, tant spirituelle que naturelle, étoiles du ciel, sable de la mer. Jamais il n'avait été précisé que ce serait par Sarah, sa femme, qu'il aurait une grande descendance. Ce n'est qu'en Genèse 18, verset 10, lorsque Abraham reçoit la visite de 3 amis, où effectivement, ils lui promettent spécifiquement, il a 99 ans. Ils lui disent, dans un an, nous reviendrons et Sarah, ta femme, aura un fils. Mesdames, vous avez de l'avenir. Romains chapitre 4. Elle avait 89 ans, hein? Maman, tu te rends compte? J'aurai un petit frère dans 10 ans. Ben ça va être du bon, ça. J'entends des bons sourires, et c'est vrai, on peut en sourire. Mais écoutez, voir ce qui est marqué. Espérant contre toute espérance. Il crut. C'est-à-dire qu'il a continué à alimenter cette promesse de Dieu. Tu m'as dit avec tes 3 amis, alors qu'on discutait ensemble sur le sort de Sodome et Gomorre. Tu m'as dit dans un an. J'aurai un fils par Sarah. C'est tellement impossible que ça ne peut être que toi. Tu vas avoir un fils. Il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations selon ce qui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en mesure d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Quand on dit donnant gloire à Dieu, en français courant, traduction effective de ce qui s'est passé, ces deux petits vieux, entre guillemets, au corps flétri, entre guillemets, ont fait gentiment l'amour. Et a été conçu Isaac. parce qu'ils avaient reçu la promesse. Ils avaient reçu la promesse que Dieu est capable de et va faire cette chose-là extraordinaire, impossible. Dans la parole de Dieu, nous avons aussi des promesses. Marc 16, versets 16 à 18, à la fin, il est dit, et les disciples de Christ imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Tant qu'on a Corim, ça va bien. Hein, si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, on rentre, on a un Doliprane. J'étais jeune chrétien à l'époque et je me rappelle, maman avait été guérie. Au début de la vie chrétienne, elle avait été puissamment guérie de rhumatisme articulaire. Papa avait été guéri du cœur. Ça l'a amené jusqu'à 91 ans et 11 mois. Mais quand bien même j'avais vu ces miracles arriver dans la maison, j'avais du mal à croire que c'est possible. Jusqu'au jour où moi je suis rentré d'Afrique, après mon premier voyage en Centrafrique, je rentre et j'avais des problèmes d'intestin. Je ne sais pas si c'était des amis, beaucoup, ce que vous voulez, je ne sais pas. Mais en tout cas, en rentrant, j'ai perdu 11 kilos en 10 jours. Ah, j'étais svelte après. Hein. Mais je commençais à avoir peur. Parce que je me disais, si ça continue comme ça, il y a peu de graisse de réserve. Et donc je suis allé voir un frère médecin de l'église qui en plus avait des compétences dans les maladies tropicales. Donc il m'a fait toute la batterie d'analyse, tout est parti de Grenoble, j'avais été de Grenoble à Lyon. Et puis quand il est revenu, il m'a convoqué. C'était un jeudi. Et il m'a reçu gentiment dans son cabinet. Il m'a dit, Claude, on n'a rien trouvé. En tout cas, à l'état actuel des capacités que donne la science, nous n'avons pas réussi à identifier ce que tu as vraiment. Donc, et j'avais peur de la réponse, donc, je ne peux rien te donner. Et j'ai dit, et donc, maintenant, on fait quoi? Et voilà ce qu'il a répondu. Il m'a dit, cet après-midi à 15h30, il y a une réunion pour les personnes âgées. Et j'ai dit, et donc ? Et il m'a dit, bah, tu feras imposer les mains et que Dieu te guérisse. Avec un naturel aussi étouffant que ce que je vous dis maintenant. Je me rappelle, je suis sorti de ce cabinet, j'ai dit merci docteur, j'ai fait payer, puis je suis rentré, j'ai marché jusqu'à l'église, j'étais sonné. Je me suis dit, un médecin qui a des spécialités en maladie tropicale ne trouve rien, et en plus il me dit d'aller voir le pasteur pour qu'il prie pour moi. Enfin, j'étais perturbé dans ma tête. Mais vous savez quoi? Vous n'imaginez pas tout à coup le sérieux que j'ai mis dans la prière. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant où je vais y rester. C'est maintenant où alors il y a un problème majeur. Et tout à coup, ma prière, qui était une gentille prière, devenait une prière avec une forte attente. Et je me rappelle ce jour, c'était une réunion de personnes âgées, il y avait environ une quarantaine de personnes. Et puis, le pasteur qui était traduit devant, un pasteur canadien anglophone, que j'avais déjà traduit, qui savait un peu le problème que j'avais, il dit comme ça pendant la prédication, je sens que l'Éternel veut guérir des malades. Et je me disais, non parce que la femme disait dans le livre, dans la Bible, mais ce que je me disais c'était, bah ouais, forcément il n'y a que des petits vieux. Chacun a son petit problème, le bobo de dos, les yeux, les oreilles. L'intestin, le genou, tu sens rien du tout, je me disais. C'est incroyable, comme on est plein de fois, hein, même dans une église. Et donc, tout à coup, au moment de, enfin, il s'arrête, et puis il nous fait avancer les malades. Et plein de gens sont avancés, et moi avec. Et je me suis dit, écoute maintenant, Seigneur, peu importe ce que je sens, ce que je vois, ce que je sais, moi, c'est que je suis malade, et que maintenant, j'ai besoin que tu interviennes. C'est toi ou personne. Alors maintenant, s'il te plaît, interviens. Et le frère, je m'attendais à une belle prière, vous savez, j'étais son traducteur préféré. Et donc, je me disais, il va faire une belle prière, bien, bien remplie de Saint-Esprit et tout. Il pose sa main sur mon épaule et il fait une prière de 10 secondes. Du genre, tu connais Claude, Seigneur, tu connais son problème de ventre, guéris-le maintenant, amen. Et moi, j'ai dit, mais c'est tout. Moi, je te conduis toute la journée, je te traduis toute la journée, et toi, tu me fais une petite prière de rien du tout. Mais vous savez quoi? Autant j'avais ces pensées-là, autant ici, je savais que j'étais guéri, et j'étais guéri. Notre attente se fonde sur ce que Dieu dit. Sur ce que Dieu dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. N'ai pas l'air convaincu. Bien aimé, la foi vient de ce qu'on entend. Même si la misère ressemble au fond de mon âme comme de l'absinthe, voilà ce que je veux repasser dans mon cœur, dit Jérémie. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! Come on! Qu'est-ce que tu attends? Dieu te donne la promesse. Ce matin, je t'invite à ne pas douter, à ne pas laisser les pensées de l'incrédulité continuer à se bagarrer. Dis, Seigneur, tu as dit, alors je sais que tu feras. D'ailleurs, c'est l'attente, c'est mon troisième point, mon dernier point. L'attente crée un environnement propice au miracle. C'est fou, comme je dis toujours à nouveau, préparait les gens à attendre. Par exemple, il va dire, dans Jean 6, verset 10, il va dire à cette foule qui a faim, qui peut-être s'attendait à être renvoyé, à ce qu'ils aillent chercher dans les villages, chez les fermiers du coin, un peu de quoi acheter. Il dit à un disciple, faites-les asseoir. Non, mais j'imagine un peu les gens. Quand le disciple arrivait, mettez-vous assis. Là, pas 50. Allez, un paquet de 50, là. Et pourquoi faire? On a faim. Et les plus malins ont dit, mais qu'est-ce que Jésus va faire? Et le disciple, je ne sais rien. Asseyez-vous. Mettez-vous assis. Et il dit aux disciples, qu'est-ce que vous avez là à manger, les gars? Ben, il y a un petit gamin là qui a 5 pains, 2 poissons, apporte-les-moi. J'imagine les disciples, ils ont dû être dans leurs petites chaussures ce jour-là. Ils ont dû dire, mais qu'est-ce qu'il va nous faire encore là? Il rend grâce avant le repas. C'est pour ça que nous rendons grâce avant le repas, parce que Jésus l'a toujours fait. Il rend grâce. Et après, il rompt les pains et il dit aux disciples, distribuez. Ah, mais alors là, j'aurais voulu être là avec une caméra et filmer la chose. C'était pas un gros tas de pain qui est apparu. Ils avaient toujours encore leurs 5 pains pliés en 2, ça fait 10. Et 2 poissons coupés en 2, ça fait 14. Enfin bref, voilà ce qu'ils avaient. Et Jésus lui a dit, allez-y, distribuez. Ben, le premier, il aurait eu une petite miette. Hein. Tiens, Jean-Luc, c'est ton repas du soir. Rends grâce à Dieu. Tu vas un peu maigrir, mais c'est pas grave. T'as comme moi passé pas mal de réserves. Hein. Et tout à coup, la miette repousse. Et puis, il se dit, tiens, ça a poussé un deuxième morceau plus gros. Tiens, Benjamin, pour toi. Ah, ça a poussé. Oh, et je pense que les premiers ont dit, hey, ça marche, ça se multiplie pendant qu'on distribue. Mais l'attente a produit le miracle. L'attente a produit le miracle. Vous vous rappelez à ce cimetière de Béthanie, avec Lazare qui était dedans depuis 4 jours. Et Jésus qui vient, alors on va pas, je fais résume, mais hein, à un moment donné, il va dire, roulez la pierre. Pourquoi faire? Moi, j'aurais dit pourquoi faire, quoi. Pourquoi faire? Il a suscité l'attente, roulez la pierre. Mais ils sont déjà. Roulez la pierre. Il a créé de l'attente, de l'attente, de l'attente. Verser de l'eau dans les jarres à Cana. On a besoin de vin, lui il parle d'eau. Non, mais pourquoi faire? Parce qu'il crée de l'attente. Et parfois Dieu, dans nos vies, crée de l'attente, suscite de l'attente afin que nous commencions à espérer contre toute espérance que Dieu va agir en fonction des promesses de sa parole. On a ces fameuses scènes, et là c'est une attente collective, et souvent on oublie ça. Mardi soir, nous allons prier pour les baptêmes de l'Esprit. Dans Actes chapitre 1 et au verset 10, voilà ce que Jésus dit. Il leur recommanda, versets 4 et 5, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse. Allô ? D'attendre la promesse. D'attendre le moment clé où tout à coup, ça va arriver. Et c'est arrivé soudainement. Et ces gars-là, pendant 10 jours, se sont réunis, sans doute matin, midi et soir, comme un peu une semaine de jeûne et prière. Ils se sont réunis, ils ont prié, ils ont chanté, ils ont loué, ils ont mis des choses en règle. Et ils se disent, ils ne savaient pas ce qu'ils devaient attendre. Hein. Ils n'avaient aucune idée, nous on le sait. Mais eux, ils ne savaient pas. Et tout à coup, c'est venu. L'attente crée un environnement propice aux miracles et aux soins naturels. Pas prolonger parce que sinon on n'aurait pas le temps de prier. Ce matin, bien-aimés, j'ai vraiment à cœur de vous encourager à laisser la parole de Dieu élever votre regard au-dessus de vos situations de vie et à vous attendre à Dieu. Psaume 130, et là je parle à tous ceux qui sont dans le fond de l'abîme. Psaume 130 dit « Du fond de l'abîme, je t'invoque au Éternel. Écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. » Y a-t-il quelqu'un qui ici peut dire « Je suis au fond de l'abîme » au niveau santé, au niveau professionnel, familial, avec un ami, avec un enfant. Au fond du trou, t'es au fond du trou, écoute ce qui est marqué. J'espère, verset 5, j'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. Mon âme espère et j'attends sa promesse. Une autre version dit, mon âme espère et je compte sur sa promesse. Je compte sur lui. Plus que les gardes ne comptent sur le, mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Chaque fois que la Bible répète un verset, c'est comme en mathématiques, c'est pour amplifier la chose. C'est le verset au carré. Vous savez, 5 au carré, 10 au carré, c'est le carré. C'est pour dire, c'est important, c'est drôlement important de prier avec l'attente, de prier avec expectative, de prier en s'attendant à ce que quelque chose se passe. Alors il est vrai que c'est pas toujours comme on veut que ça se passe, mais Dieu entend nos prières. Je racontais ça, je terminerai là-dessus, lorsque on a eu une crise conjugale, je me rappelle, un soir c'était tellement grave que j'ai prié, mais j'ai pas prié, juste prié, j'ai hurlé à Dieu. Et le Seigneur m'a donné un verset. Psaume 91, verset 14. Il m'a dit, je serai avec toi dans le malheur. Ça, je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé du tout. Hein. Je te délivrerai, verset 15. Et je t'honorerai. Quelques jours après, ça m'a demandé d'appeler un frère de Louisiane. Il devait venir, donc je l'appelle et il me dit, tu vas bien frère? Je dis, oh, un souci conjugal. Il me dit, j'ai connu ça aussi. Je dis, ah bon, ça me rassure. Et il me dit, it was 7 months hell on earth. 7 mois, c'était 7 mois d'enfer sur terre. Je dis, je suis encouragé. Hein. Mais voyez-vous, pendant 7 mois, je me suis accroché à ce qu'il m'avait dit. Je serai avec toi dans le malheur. Des fois, je venais au culte, je n'en menais pas large. Je montais sur l'estrade faire la louange, le ciel s'ouvrait. Je redescendais l'estrade, le ciel se refermait. Je rentrais à la maison, enfer sur terre. Mais au bout de 7 mois, dans la nuit du 20 au 21 juin 2003, Dieu a fait un miracle dans notre couple. et il nous a restaurés en une nuit. En une nuit, je te délivrerai. Je te délivrerai. Attendez-vous à des grandes choses de la part de Dieu. C'est le grand missionnaire William Carey qui disait ça. Peut-être l'afficher courtement parce que ça a été fait, très bien fait. Il disait, attendez-vous à de grandes choses de Dieu. Tentez de grandes choses pour Dieu. Expect great things from God. Attendez-vous. C'est pourquoi ce matin, j'avais été ben à finir par la prière. Un temps de prière, ministère peut-être. Psaume 27, verset 4 dit, espère en l'Éternel. Notre version dit, attends-toi à l'Éternel. Compte patiemment sur le Seigneur. Sois fort. Reprends courage. Compte sur le Seigneur. Psaume 130. Du fond de l'abîme, je t'invoque. Du fond de mon trou, je t'invoque. Et j'espère en l'Éternel. C'est-à-dire, je m'attends à toi. Je compte sur toi plus que les gardes ne comptent sur le matin. Tous ces sentinelles qui faisaient jour, nuit après nuit, leur garde de nuit, ils savaient qu'à un moment donné, le soleil allait se lever et qu'ils allaient pouvoir arrêter leur part de service. Autant eux comptaient sur l'arrivée du soleil, autant tu peux t'attendre à l'arrivée du soleil de justice, Jésus, qui a soif. À celui qui a soif, je donnerai. Quelle promesse. Benjamin, merci de venir nous remplacer. Prions ensemble.
Alléluia. Fermons nos yeux. Commençons juste à chercher le Seigneur. Pendant que Matt se prépare à prendre ce chant, nous allons prendre le temps de prier. Mon frère, ma sœur, tu vas peut-être prier pour la millième fois pour un sujet que tu as déjà abordé, mais ce matin, Seigneur, je prie que la foi augmente lorsque nous venons t'apporter nos prières. Lorsque nous venons t'apporter, Seigneur, ce qui nous travaille, nos besoins, nos fardeaux, je prie, Seigneur, qu'ils viennent devant toi avec plus de foi qu'ils ne sont jamais arrivés à tes pieds, Jésus. Que réellement, Seigneur, la foi augmente dans ce lieu. La foi augmente, Seigneur, pour nos bien-aimés sur Internet. Et que lorsqu'ils prient, ils ne formulent pas une prière, ils s'adressent directement avec assurance à celui qui va répondre à leurs besoins. Je te le demande, Jésus. Écoutons ensemble et louons Dieu avec ce chant. Pourrais-je vous inviter à vous lever? Et ensuite, nous allons prendre un temps, nous allons prier de manière spécifique pour nos besoins. Alléluia.
Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Proclamons, tu es Dieu.
On regarde à Jésus ce matin.
En ce lieu, je m'attends à toi. Tu es tout pour moi, éclairé par ta présence. Prosterne.
l'équipe continue de jouer. Commence maintenant. Tu sais pourquoi tu es devant Dieu maintenant. Voulons pas terminer ce culte juste pour terminer ce culte. Nous voulons terminer ce culte en mettant en pratique ce que nous avons entendu, bien aimé. Tu sais pourquoi tu te tiens devant Dieu. Tu sais ce qui te travaille. Tu sais quel est ton besoin. Peut-être que tu ne peux pas le formuler suffisamment fort pour que les gens... Non, il ne faut pas que les gens l'entendent. Peut-être que c'est trop intime. Mais ce matin, mon frère, ma sœur, il est temps d'être comme la veuve. Il est temps d'être comme la femme à la perte de sang. Il est temps d'être comme Seigneur, il est temps d'être comme le centenier. Il est temps d'être comme le sourd face à Jésus, comme l'aveugle face à Jésus. Ce matin, il est temps de crier à Dieu. Non pas crier pour crier, mais crier parce que tu sais qu'il t'entend, parce que tu sais qu'il te répond. Alors quel que soit ton sujet ce matin, commence à crier à Jésus. Pouvons-nous formuler des prières de foi? Peux-tu le formuler à ta place? Il te suffit d'un mot de foi pour toucher le cœur de Dieu. Commence à prier pour ton fils et ta fille comme tu n'as jamais prié pour lui. Commence à prier pour ton épouse et ton époux comme tu n'as jamais prié pour lui. Commence à prier pour ta situation sur ton lieu de travail comme tu n'as jamais prié pour cette situation. Commence à prier pour ta santé comme tu n'as jamais prié. Tu ne pries pas les prières de la foi en ayant la bouche fermée. Tu pries en ayant la bouche ouverte, en ayant le cœur ouvert. Prie ce matin. Je prierai pour mes sujets. Prie pour tes sujets ce matin. Et attends-toi à Dieu. Attends-toi à Dieu ce matin.
Ça ne va plus, mais que leur foi, Seigneur, augmente ce matin, que leur foi soit renouvelée face à leur situation. Oh Père, viens toucher, viens faire grâce dans ce lieu, sur Internet, Seigneur. Nous croyons en ta puissance encore, malgré les années, malgré le temps, malgré les circonstances, malgré, Seigneur, le manque de perspective face à cette situation. Tu es celui qui est encore capable d'agir. Tu n'as pas dit ton dernier mot. Tu n'as pas dit ton dernier mot, Seigneur. Viens te révéler. Viens te glorifier, s'il te plaît, Père. Je te le demande. Je t'en supplie. Dieu de grâce. Dieu de grâce, guéris dans ce lieu. Libère dans ce lieu. Sauve dans ce lieu. Sauve des mariages. mariage dans ce lieu, secours dans ce lieu, soutien dans ce lieu, manifeste-toi dans ce lieu, Jésus, nous nous attendons à toi, nous attendons à toi, Seigneur, fais grâce s'il te plaît, continue, continue, prie dans de nouvelles langues quelques instants face à ta situation, élève ta voix dans de nouvelles langues, intercède dans l'esprit. Agis, Seigneur, agis dans les corps ce matin, agis dans les corps ce matin, fais le miracle, Seigneur, fais le miracle là où nous ne pouvons rien faire, fais le miracle, Seigneur. Oh, nous t'en supplions, nous implorons ta grâce, Jésus, nous implorons ta grâce, Seigneur. Oh, nous te bénissons, Alléluia, simplement alors que l'équipe continue de jouer. Ma sœur, tu es dans ce lieu et alors que nous étions là, tu priais pour ton fils. Ton fils qui est dans la vingtaine et qui est parti il y a maintenant plus d'un an, qui est parti dans la drogue. Tu le vois se dégrader. Les semaines passent et tu le vois se dégrader. Tu ne sais pas précisément ce qu'il prend comme drogue, mais tu es consciente qu'il en prend de plus en plus et tu le vois physiquement. Ton fils est sur le déclin. Mais le Seigneur te dit, ma fille, j'ai entendu ta prière ce matin. J'ai entendu la prière d'une mère désespérée. C'est pourquoi je te réponds clairement. Ton fils qui a quitté, il est venu ici dans ce lieu sur plusieurs années lorsqu'il était enfant. Mais ton fils qui est loin de moi aujourd'hui, je le ramènerai auprès de sa mère. C'est pourquoi je te dis, garde la foi ce matin. Garde la foi et compte 4 mois. Et au bout de 4 mois, ton fils reviendra. Ton fils reviendra. Ton fils reviendra brisé. Mais ton fils reviendra, et il reviendra non seulement chez sa mère, mais voici ce que te dit le Seigneur, alors qu'il reviendra chez toi, tu le conduiras chez moi, et je sauverai l'âme de ton fils, et je le restaurerai. C'est pourquoi je te dis, n'aie pas peur, ce matin j'ai entendu ta prière, alors à partir de maintenant, glorifie-moi. Glorifie-moi comme si ces 4 mois sont déjà passés. Jésus face à Lazare priera en disant, Père, je te remercie de ce que tu m'as répondu avant même de voir la résurrection. La reconnaissance était déjà là. Seigneur te dit, sois reconnaissante pour les 4 prochains mois et tu verras ma main se manifester sur toi, ma main se révéler sur toi. Il y a également un couple qui nous suit sur internet et vous avez, malheureusement, vous avez vécu un drame. Vous avez plusieurs enfants, mais l'un de vos enfants s'est pris la vie. Et vous voyez celui qui le suit derrière, c'est son petit frère. Vous sentez qu'il est, il est dans la même veine. Il est dans la même veine, il a cette humeur dépressive et vous avez peur pour lui. Ça a été un véritable traumatisme pour toute votre famille. Et vous avez peur que quelque chose s'est déposé sur ce deuxième enfant. Et le Seigneur vous dit, mes bien-aimés, ne craignez pas. Aimez-le, chérissez-le. Non seulement je console votre cœur et le sien, mais je vais renouveler la vie en lui. je vais renouveler la vie en lui. C'est comme si au départ de son grand frère, il y a eu une, c'est comme s'il y a une partie de sa vie qui est partie avec son grand frère. Le Seigneur vous dit, je vais renouveler la vie en lui. Ne vous inquiétez pas, continuez de le porter auprès de moi, mais ne vous inquiétez pas, parce que je suis celui qui agira pour lui. Je vais agir, gardez-le, amenez-le au pied de la croix, mais je vais agir. Ce matin, ce que je vous donne, c'est la paix qui vient du ciel. Je vous donne la paix qui vient du ciel. Je vous donne la paix qui vient du ciel. Peux-tu, mon frère, ma sœur, vous qui êtes là en couple et sur internet, tenir la main de ton épouse, tenir la main de ton époux. Quelques instants, priez pour les couples. Priez pour les couples, Satan essaye de détruire. Satan essaye de dérober, Satan essaye de voler. Mais la présence du Saint-Esprit qui était là dans cette fameuse nuit pour Claude et pour son épouse Caro, la présence du Saint-Esprit agit encore maintenant. Il y a des circonstances qui essayent de diviser ce matin dans les couples. Mais le Seigneur est tout puissant. Alors commence à prier pour ton épouse. Si elle est à côté de toi, si elle n'est pas là, prie pour elle là où elle est. Commence à prier pour ton époux ce matin. Père, j'élève ma voix pour Sylvia. Je te demande ta grâce, ta bénédiction sur elle. Je te demande de garder notre couple. Je te demande de nous protéger, de nous garder. Seigneur, de nous garder toujours unis en toi, pour toi, par toi, Seigneur. Nous avons tant besoin de ton aide. Mais je prie pour tous mes bien-aimés qui bataillent dans leur couple. Fais grâce ce matin. Fais grâce ce matin. Satan a été vaincu sur la croix. Satan a été vaincu par l'œuvre de la croix. Seigneur, il rôde et il rugit, il essaye de détruire. Mais Satan a été vaincu. C'est pourquoi, Seigneur, nous réclamons la paix. Nous réclamons l'unité dans les couples et dans les familles. Nous réclamons l'amour renouvelé, s'il te plaît. Oh Père Jésus, viens renouveler l'amour de mes bien-aimés pour leurs conjoints, pour leurs conjointes. Viens renouveler un feu nouveau, un élan nouveau, une braise nouvelle. Seigneur, souffle sur eux s'il te plaît. Accorde ta grâce et que, Seigneur, les couples des enfants de Dieu tiennent ferme. Nous le déclarons, les couples des enfants de Dieu tiendront ferme. Tiens-donc ferme dans une société où les couples, Seigneur, se détruisent, s'auto-détruisent, dans une couple où les mariages, dans une société où les mariages ne tiennent plus. Nous le déclarons, nos couples tiendront ferme, car tu es celui qui nous unit, car tu es celui sur lequel nous bâtissons. Seigneur, nous proclamons la puissance de Jésus, la solidité du roi des rois. Tu es le roc, tu es le soutien, tu es celui qui porte tes enfants. Alors Seigneur, nous construisons nos maisons sur toi, nous bâtissons sur toi, nous nous attendons à toi. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que le nom de Jésus-Christ soit béni ce matin. Alors Seigneur, que nous puissions ressortir avec une foi ferme, une foi fortifiée, une foi fortifiée. Et Père, je prie simplement pour terminer ce matin. Donne-nous de ne pas juste, Seigneur, nous attendre avec foi à l'intervention, mais donne-nous, Seigneur, la foi pour mettre les choses en règle. Que les choses qui doivent être mises en règle, Seigneur, nous puissions le faire avec de la foi également. Parce que, Père, tu réponds à la prière fervente du juste. Nous voulons être justes devant toi. Nous voulons être justes devant toi. Donne-nous de faire ce qui est juste, s'il te plaît. Père, je te le demande, s'il te plaît, fais grâce. Fais grâce, cette pensée est pour plusieurs couples ce matin. Vous devez faire ce qui est juste en ressortant de ce lieu. Vous devez arrêter de vous disputer. Vous devez vous demander pardon. Faites ce qui est juste et Dieu fera le reste. Dieu fera le reste, c'est une promesse de sa part. Mais vous faites ce qui est juste. Ne vous entêtez pas dans vos disputes. Laissez le Seigneur agir. Mais faites ce qui est juste. Père, nous te louons. Nous te bénissons. Nous te rendons la gloire. Et Seigneur, nous te disons merci maintenant. Merci pour ce que tu as fait déjà maintenant. Il y a les réalités célestes, les réalités spirituelles. Et Seigneur, nous croyons que ces réalités spirituelles se sont produites maintenant. Et elles prendront place dans nos vies concrètes à partir de maintenant. Que ton nom soit loué, Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Pouvons-nous terminer ce temps juste en lui offrant une acclamation? Parce qu'il est celui qui répond comme une louange, comme une adoration. À toi la gloire, à toi l'honneur, Jésus, à toi l'honneur. Oh, merci Seigneur Jésus, merci Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, bien-aimé, ce ne sont pas juste des mots que nous prononçons. Alléluia. Ce ne sont pas juste des mots. Repartez avec l'assurance que Dieu a répondu ce matin. Alléluia. On va prendre un dernier chant ensemble. Et je vous invite à 14h30, là aussi, pour célébrer la victoire de Jésus pour tous nos bien-aimés. Chantons ensemble.
Il y a force dans le nom du Seigneur.
Dieu vous bénisse richement. Rendez-vous mardi soir pour le culte. Nous prierons pour le baptême dans le Saint-Esprit. Et dimanche matin, à très bientôt, bien-aimés.
Pour toi, nos vies se lèvent.